Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Il avait voulu jouer la surprise en anticipant d'un an et demi l'élection présidentielle et les législatives qui auront lieu le même jour, ne laissant ainsi à ses adversaires que 2 mois pour faire campagne. Mais demain, en Turquie, le calcul de Tayyip Erdogan pourrait bien se retourner contre lui. C'est la surprise dans ce pays qui vit toujours en état d'urgence, avec des médias muselés au profit du pouvoir, les principaux partis d'opposition, pour une fois alliés, pourrait lui infliger l'humiliation d'un second tour et d'un parlement rebelle. L'enjeu, demain, c'est évidemment l'ambition du maître d'Ankara d'installer un régime présidentiel concentrant à son profit, une fois pour toutes, l'ensemble des pouvoirs, lui permettant de s'inscrire dans l'histoire, dans la lignée des grands sultans ottomans. Mais l'économie va mal, la devise nationale s'effondre, l'inflation flambe, les investisseurs sont inquiets, la diplomatie turque s'active sur tous les fronts, accentuant le rapprochement avec la Russie, les tensions avec les États-Unis et l'hostilité à l'Union européenne. Quel scénario politique va-t-il donc émerger des urnes turques demain? Jusqu'où la détérioration de leur niveau de vie va-t-elle peser sur le choix des électeurs? Si Tayyip Erdogan est affaibli, qu'attendre d'Ankara vis-à-vis de l'OTAN, dont le pays reste évidemment un pilier, vis-à-vis des Kurdes, dont le vote est crucial, vis-à-vis de l'Europe, bien sûr, vis-à-vis de la Syrie et des nombreux enjeux régionaux. C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Ahmet İnsel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et politologue, vous avez longtemps enseigné à l'université de Galatasaray à Istanbul, vous avez été vice-président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dorothée Schmidt, merci mille fois d'être avec nous en duplex de Beyrouth. Vous êtes la directrice du programme Turquie-Moyen-Orient à l'IFRI. Denise Unal, bienvenue. Vous êtes économiste, rédactrice en chef du Panorama du CPI et par téléphone. La jeune avocate Ece Güner Toprak depuis Istanbul. Merci beaucoup Ece d'être avec nous et je vais commencer avec vous, pour vous demander, vous faites évidemment partie de cette société civile dont on a vu à quel point elle a été malmenée par le régime d'Erdogan, les milieux judiciaires, intellectuels, les journalistes, avec des purges incessantes, les milieux industriels aussi, avec plusieurs groupes qui ont été démantelés. Quelle est l'ambiance à quelques heures des scrutins de dimanche?
Je dirais que l'ambiance, en fait, dans la société civile, c'est un grand sentiment d'enthousiasme et d'espoir, en fait, en ce moment. Et malgré des élections, en fait, qui se sont faites dans des conditions très inégales, hein, du côté du financement, du côté des médias, malgré toutes les inégalités, je crois que ce qui a donné beaucoup d'espoir à la population, c'est que des partis politiques, des mouvements de société civile, de tendance politiques très différentes, donc des conservateurs, des gens de gauche, de droite, se sont unis, peut-être pour la première fois, de cette manière, autour de quelques valeurs communes, comme la démocratie, la république, la justice pour tous, la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté de la presse. Donc, je crois qu'on a vécu ça, en fait, comme quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on a souffert ces dernières années sur beaucoup de ces fronts que j'ai cités, et soudain, il y a eu un plus grand sentiment de solidarité et un désir de changement pour une société plus démocrate, plus égale, avec plus de justice. Et je crois qu'on vit ça comme un sentiment d'espoir. Bon, malgré tout, c'est très, très serré. Je crois que personne, en fait, ne peut savoir exactement ce qui va se passer demain, donc aux élections. Et donc, c'est des élections qui sont faites dans des conditions très inégales. Mais je crois que c'est le début d'un changement, quoi qu'il arrive demain, ce sera de toute façon très serré. Il y aura, je crois, une participation très forte. On parle des 90% peut-être. Et un autre sujet où il y a beaucoup de solidarité en ce moment dans la société civile, c'est d'éviter toute fraude électorale. Il y a beaucoup de peur de fraude électorale et il y a un mouvement énorme dans la société pour tous aller contrôler les bureaux de vote, aller être observateur, etc. Et voilà, je crois que donc malgré toutes les difficultés, on a beaucoup d'espoir en ce moment.
Est-ce qu'il y a une tension particulière? On sait que Ankara, Istanbul ont été frappés par des attentats terribles depuis deux ou trois ans. Est-ce que les forces de sécurité sont très présentes et créent un climat qui évidemment pèserait sur les électeurs?
Je crois que, bon, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a eu des incidents, c'est vrai, mais quand on parle globalement, je dirais, sur l'ensemble du pays, non, je crois qu'il n'y a pas un effet si pesant. La plus grande difficulté, je pense, ça a été les médias, parce qu'il faut bien se rendre compte, peut-être qu'en France, on se rend pas tellement compte, que près de 80% des médias sont en fait proches du gouvernement. Donc l'opposition a beaucoup de mal à trouver sa place dans les médias. Mais malgré cela, je pense que le bouche à oreille, les meetings, social media, toutes ces choses-là, les gens ont réussi à garder espoir. Et donc, je pense qu'on ne sent pas une telle pesanteur, malgré tout.
Merci Etché. Restez, s'il vous plaît, en ligne avec nous. Je voudrais vous demander, Ahmed Insel, vous vivez à Paris maintenant. La Turquie est en état de siège depuis 2 ans.
État d'urgence.
État d'urgence depuis juillet 2016. Donc, si ma mémoire est bonne, il y a eu une élection présidentielle en 2014.
Août 2014, oui.
Que Erdogan a remporté. Des législatives en 2015. Et là, il a été plutôt déçu parce que...
En juin 2015, il a perdu la majorité parlementaire. Mais comme l'opposition l'opposition parlementaire était composée du parti d'extrême droite nationaliste, le parti républicain et le parti démocratique des peuples, ils n'ont pas pu s'entendre et il a provoqué des élections anticipées. Il a empêché même la formation d'une grande coalition entre son parti et le principal parti d'opposition. C'était éventuellement possible, mais ça l'avantageait pas. Il a provoqué des élections. Il y a eu beaucoup d'affrontements, beaucoup de violences en ce moment-là. Les attentats que vous avez rappelés tout à l'heure ont été surtout à cette période-là, à Ankara, la gare d'Ankara, à Suruç. Dans ce retour de violence, les électeurs ont été appelés à revoter le 1er novembre. Et là, il avait regagné la majorité parlementaire en obtenant 49% des voix.
Alors, en avril dernier, tout à coup, il annonce...
Après, il y a eu le coup d'État, la tentative de coup d'État en 2016, l'été 2016. Et à partir du coup d'État, il a fait proclamer une semaine après l'état d'urgence. Et cet état d'urgence n'est pas l'état d'urgence à la française. C'est un état d'urgence extrêmement... vous avez dit état de siège. De fait, un état de siège. C'est-à-dire on suspend vraiment les
libertés.
Les libertés, l'état de droit. Hein, c'est notamment en termes de procédure pénale. Avec la possibilité de saisir les biens et donc du coup par décret gouvernemental, les personnes ont été licenciées, ont perdu leur emploi, les maisons d'édition, les journaux ont été saisis, etc., etc. C'est un état d'urgence.
C'est violent.
Ah oui, très violent. Vraiment, l'état de siège, c'est la même chose à peu près. Et à partir de là, à ce moment-là, il y a eu l'idée de proposer, d'une manière totalement inattendue, un changement des amendements constitutionnels pour mettre en place ce que lui, il essaye de mettre mettre à l'ordre du jour depuis à peu près 2013-2014, c'est-à-dire un régime hyper-présidentiel.
Alors, il faut rappeler qu'il est au pouvoir depuis 15 ans.
Depuis 15 ans.
D'abord comme Premier ministre.
Tout à fait. Depuis, il a été nommé Premier ministre en mars 2003. Son parti a été élu en novembre 2002. Et quelques mois après, lui, il est rentré au Parlement. Il a été immédiatement Premier ministre. Donc, du coup, il est Premier ministre de mars 2003 jusqu'en août 2014. Et depuis, il est président de la République. Et pas n'importe quel président de la République, puisqu'il a grignoté les pouvoirs, même au-delà de ce qui était permis par la Constitution.
Avec son parti, l'AKP, qui est donc un parti que l'on dit islamo-conservateur, qui est devenu de plus en plus islamiste et de plus en plus conservateur.
Au départ, le parti, il s'appelait pas, on ne disait pas islamo-conservateur, on essayait de, parce qu'il se réclamait d'une conservatisme démocratique, il se disait un parti démocrate-conservateur, et il se battait pour cette appellation, mais à partir de 2011 à peu près, de plus en plus, Tayyip Erdogan a commencé à mettre en place son projet personnel de unification des pouvoirs, de mettre en place un régime hyper présidentiel. Et deuxième chose, il a commencé à reparler de l'idée d'une refondation civilisationnelle de la Turquie. Et quand on dit refondation civilisationnelle de la Turquie, c'est le retour de l'islam dans l'espace politique de plus en plus. C'est une réislamisation de l'espace politique qu'il menait avec l'éducation, ce qui est le porteur principal.
Et la purge, évidemment, des partisans de Gulen.
Après le coup d'État, c'est la purge des partisans de Gulen.
Faut rappeler donc que Gulen vit en exil aux États-Unis depuis fort longtemps.
Depuis 1999.
Mais dans le système éducatif en Turquie, mais pas seulement en Turquie. Il y a des écoles gulenistes en France, enfin en Europe, en Afrique,
aux quatre coins du monde à peu près.
Et dans l'appareil judiciaire et dans l'armée.
Il y avait eu beaucoup d'infiltrations dans l'appareil judiciaire, dans la police. Et on a découvert avec le coup d'État qu'il y avait aussi des infiltrations relativement importantes dans l'armée. Mais auparavant, Tayyip Erdogan était en alliance avec le mouvement Gulen, puisque vers la fin des années, dans les années 2000, le mouvement Gulen, qui avait des cadres bien formés, notamment connaissant bien le monde extérieur, ils sont beaucoup plus formés à l'étranger, etc. Ils ont des réseaux internationaux et il avait utilisé les cadres gulenistes pour pouvoir remplacer dans l'administration, mais des affaires étrangères jusqu'au ministère de la Santé, les cadres qu'il considérait non fiables pour lui, c'est-à-dire les anciens kémalistes ou de gauche ou des syndicalistes, etc. Et la communauté Gulen ou le mouvement Gulen avait profité de cette alliance pour pouvoir de plus en plus contrôler ces organisations et notamment, malheureusement, notamment la police et la justice. Et c'est comme ça que Tayyip Erdogan a pu aussi faire des purges dans l'armée avant même le coup d'État. C'est-à-dire il avait commencé en 2008-2009 par des procès truqués à faire des purges dans l'armée.
Denise Ünal, on sait que tout au long de l'ascension de Tayyip Erdogan, la très bonne santé économique de la Turquie a été pour lui un atout majeur. Je crois que l'économie turque, en une quinzaine d'années, le PIB a pratiquement doublé ?
A triplé.
Triplé.
Entre 2002 et... 2008, déjà, on pouvait parler de triplement du PIB en termes nominaux. Mais c'est pas que ça. C'est parce que le développement n'est pas qu'une croissance du PIB. Ce qu'il a réussi, il faut dire, jusqu'à ce moment-là, jusqu'en 2008, et que les anciens dirigeants de la Turquie n'avaient pas réussi, c'est qu'il y a eu une politique, ce qu'on appelle inclusive. Il a pu inclure dans la société, dans l'économie, des classes entières de personnes qui en étaient exclues. Par exemple, quand on prend les villes, on peut discuter ensuite de l'urbanisation de tout ça, mais il n'y a plus eu de bidonville autour des villes. Tout a été intégré dans la ville. Beaucoup d'endroits en province ont eu des routes, des écoles,
il y a eu des efforts d'infrastructures considérables.
Et tout ça, ça a vraiment amené des votes. Il a vraiment agi. Évidemment, après, c'est devenu complètement populiste. Mais c'est vrai que ces gens-là, ils avaient été mis au banc de la société avant. ils n'étaient pas intégrés. Là, ils ont réussi. Et c'est pour ça que, même encore dans sa campagne aujourd'hui, il dit, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, j'ai fait ça pendant des années. Vous n'avez inclus personne.
Le problème, c'est que la situation économique maintenant, c'est gravement détériorée. La livre, la devise turque a perdu 17% par rapport au dollar depuis le 1er janvier. L'inflation, je crois, atteint 10,8% par an. La Banque centrale, je lisais quelque part que Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a émis un avertissement parce qu'apparemment, le président turc considère que la Banque centrale n'est pas indépendante et que donc elle doit obéir à ses idées à lui, ce qui provoque une grande méfiance des investisseurs. Donc, jusqu'à quel point est-ce que cette mauvaise situation économique pourrait influencer demain dimanche les électeurs?
Ça peut influencer beaucoup, parce que justement, les électeurs d'AKP ne sont pas habitués à ça. Les électeurs d'AKP sont habitués à une gestion relativement saine de l'économie, si j'ose dire. Même s'il y a du populisme et tout, mais en tout cas, tout le monde gagne. Là, on est en danger de récession après les élections. Pourquoi on en est arrivé là? Il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est que depuis qu'il est devenu président, depuis 2014, et il a vraiment empêché les institutions économiques, comme les institutions démocratiques, de jouer leur rôle. Il les a nommés lui-même, et ce n'étaient pas toujours des gens compétents. Et avec tout ce qu'il a nommé, on a mené des politiques plutôt, pas selon les besoins de l'économie, mais selon les volontés du pouvoir.
Et de ses clientèles, donc.
Et de ses clientèles. Mais on est arrivé à un point que ça s'est retourné vraiment contre tout le monde. Maintenant, il n'a plus les rênes de l'économie. Ça lui échappe.
Ahmet İnsel, venons-en donc à cette surprise de voir une alliance entre trois partis politiques qui existaient depuis un certain temps, ne serait-ce que le parti dit de centre-gauche, qui est le vieux parti...
Le plus ancien parti de la Turquie.
Le parti donc d'Atatürk.
Oui.
Et donc tout à coup, ces gens-là décident qu'il faut une union sacrée contre Erdogan. Qu'est-ce qui s'est passé?
D'abord, deux choses. D'abord, la décision d'élection anticipée qui était annoncée le 18 avril d'une manière totalement brutale et avec une échéance très, très rapprochée, a créé un effet de choc, primo. Deuxièmement, c'est presque un effet de choc et un effet de une mobilisation de une sorte d'élan de vie de l'opposition. Deuxièmement, Tayyip Erdogan a besoin pour passer les élections présidentielles a besoin de plus de 50% des voix. Il voulait passer au premier tour. Et donc depuis quelques mois, il avait fait une alliance ouverte avec le parti d'extrême droite nationaliste qui était en train de perdre énormément de voix par la dissidence créée par Madame Akşener qui a créé un parti après le Bon Parti. Ce parti d'extrême droite, MHP, qui est aussi un vieux parti de la Turquie, de la droite nationaliste, s'il ne passe pas la barre de 10%, ça lui permettait pas à Tayyip Erdogan d'avoir le soutien de ce parti. Alors, il a inventé quelque chose. Il a dit, les partis peuvent se présenter aux élections sous leur couleur, mais ils peuvent déclarer en coalition, donc les voix des uns vont s'ajouter aux autres. C'est-à-dire que moi, j'ai un parti qui va avoir 40% des voix, l'autre 55% des voix, mais avec ces 5% de voix, mes 40 font 45, donc il va pouvoir passer les 10%.
Et il n'a pas pensé que ça pouvait aussi bénéficier aux autres.
Parce que il n'a pas l'habitude de ça. Tayyip Erdogan règne en Turquie en créant systématiquement une polarisation identitaire et politique. Nous et eux. Et nous, c'est les musulmans, les conservateurs, les Turcs nationalistes, etc. Et eux, les autres. Mais en face de lui, pour la première fois, il y a eu la droite nationaliste, de Madame Akşener, le Parti républicain du peuple centre-gauche, le parti authentique islamiste démocrate ou islamiste, qui est vraiment le parti issu c'est l'ancien parti de Tayyip Erdogan, hein, c'est donc le parti de la félicité, et un petit parti qui représente la droite libérale historique de la Turquie, le Parti démocratique, qui ont fait une alliance. Il a créé la possibilité pour la première fois en Turquie depuis de très longtemps à l'opposition anti-Erdogan de pouvoir s'unir aux élections de par la loi, puisque maintenant ces partis qui la plupart n'ont pas la possibilité de passer la barre de 10% vont pouvoir aussi bénéficier de l'effet du Parti républicain. Et par conséquent, Tayyip Erdogan a créé les conditions de renforcement et d'unification de l'opposition. Moi, je suis très reconnaissant.
L'autre ironie, enfin l'autre paradoxe, c'est que c'est la minorité kurde qui représente entre 18 et 20% de la population. C'est le vote kurde qui, encore une fois, peut faire la différence.
C'était déjà...
Dans un camp ou dans un autre, il faut rappeler que le dirigeant kurde d'Emirtas, lui, il est en prison depuis un an et demi, dans une prison près de la frontière bulgare, je crois.
Tout à fait, à Edirne, oui.
Et il fait campagne, si j'ose dire, depuis sa prison. Et j'ai lu quelque part qu'il avait eu droit à 3 secondes à la télévision. Alors, quand Erdogan avait eu 2 heures.
Des heures et des heures.
Voilà.
Mais il a eu droit maintenant, comme la loi turque, la Turquie est bizarre, la loi turque marche quand même. Et donc, du coup, la télévision publique, tous les candidats à la présidence de la République ont droit à 2 fois 10 minutes. Et donc, lui, il a eu le droit à 10 fois 10 minutes. Il y a eu un grand débat pour savoir est-ce qu'on l'autorise à sortir de prison pour un jour pour faire l'enregistrement, ou est-ce que toute l'équipe de la télévision publique va se déplacer en prison? Finalement, ils ont été en prison pour enregistrer sa déclaration qui a passé 10 minutes à la télévision publique. Alors, le Parti démocratique des peuples, qui donc est un parti pro-kurde, mais qui est aussi soutenu par une partie importante, la gauche en Turquie, a déjà mis en minorité Tayyip Erdogan en juin 2015.
Oui.
Pour la première fois, il se présentait sous ses couleurs et il avait passé les barres de 10%, il avait obtenu 13%, et effectivement, ça lui avait coûté à Tayyip Erdogan, à son parti, à peu près 70 députés. Donc, pour l'enjeu de Tayyip Erdogan aujourd'hui, c'est que le Parti démocratique des peuples, c'est pourquoi son ex-président est en prison, une dizaine de députés sont en prison de ce parti, à peu près 80% des maires élus de ce parti, il y en avait 102 mairies gagnées par ce parti, à peu près 80% des maires élus de ce parti sont en prison, ce sont des administrateurs provisoires qui ont été des administrateurs...
Et donc ça, c'est dans les régions dominées par la population kurde.
Sud-est de la Turquie, essentiellement. Ouais. Est et sud-est de la Turquie. C'est là où il y a la concentration de la population kurde et le Parti démocratique de peuple. Dans certaines circonscriptions électorales comme Diyarbakır, Hakkari, etc., obtient plus de 70% des voix. Mm-hmm. Et donc, si ce parti ne passe pas la barre des 10%, qui va gagner les sièges et qui va récupérer les sièges qui ne sont pas pourvus? 90%, c'est AKP qui récupère les sièges.
Donc le parti Erdogan.
Le parti d'Erdogan, le parti de justice et développement qui récupère les sièges parce que c'est le deuxième parti dans la région. Il faut aussi dire ça.
Et il y a d'ailleurs des Kurdes qui votent
Erdogan. Il y a à peu près 15 millions d'électeurs en Turquie kurdes, probablement, ou 12 millions, on ne sait pas très très bien. Et HDP récupère à peu près 6 millions de voix, et puis les 6 autres millions sont répartis, mais essentiellement à AKP. Donc du coup, si jamais HDP... le 24 juin prochain, ne passe pas les barres de 10% et Tayyip Erdogan fait tout pour empêcher. Et là, il y a même des pressions dont on a parlé tout à l'heure. On le sent beaucoup plus à l'est de la Turquie. Ils ont fait même déplacer les urnes dans des villages où
dominé.
Bon, ça concerne pas beaucoup de monde. Ça concerne 150 000 électeurs, mais quand même. Et donc, si jamais HDP ne passe pas la barre de 10%, le parti de justice et développement, avec 40 ou 42% des voix, peut obtenir la majorité parlementaire parce qu'il rafle les 60 députés.
Dorothée Schmidt, on ne vous a pas encore entendu. Merci mille fois d'être avec nous dans le bureau d'Omar Mouamane, le correspondant de Radio France à Beyrouth. Je rappelle que vous dirigez le programme Turquie, Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. On sait à quel point Tayyip Erdogan est obsédé par la lutte contre le PKK, donc contre le grand parti historique kurde dont le dirigeant Öcalan est toujours en prison dans un îlot près d'Istanbul. Et c'est la raison pour laquelle l'armée turque est entrée en Syrie pour empêcher les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Syrie d'établir un long couloir où ils auraient pu unifier en quelque sorte leur territoire. Comment qualifier, selon vous, l'incursion turque en Syrie? Est-ce que c'est pour Erdogan un succès?
Oui, alors c'est un succès qui est mis en scène par les Turcs, parce que l'opération Afrin a été, c'est la deuxième opération militaire turque en Syrie, elle a été beaucoup plus rapide que la précédente, et elle a réussi donc à chasser les Kurdes d'Afrin, parce qu'en réalité ils se sont retirés assez rapidement. Mmh. Et c'était très important pour les Turcs de mettre en scène cette opération éclair et l'occupation postérieure d'Afrin et la façon dont ils gèrent la gouvernance aujourd'hui de la ville. C'était très important de le mettre en valeur, de le mettre en scène, parce que se joue là-dedans en partie le rapport avec l'OTAN sur la crise syrienne. L'armée turque est la deuxième armée de l'OTAN en nombre d'hommes. On n'était pas très sûr jusqu'à présent qu'elle était capable de mener des opérations militaires réussies à l'extérieur de ses frontières. On avait eu un premier test avec l'opération bouclier de l'Euphrate fin 2016 qui n'avait pas été un test très concluant. Et là, on a eu une sorte d'opération éclair qui a permis aussi de montrer des armements fabriqués en Turquie et qui ont bien fonctionné, qui ont été utilisés. Donc pour les Turcs, c'était à la fois une manière de montrer qu'ils peuvent être un partenaire fiable dans des opérations militaires à l'extérieur, mais aussi qu'ils ont une vision politique de l'avenir de la Syrie, puisque ce qu'ils proposent aujourd'hui à Afrin, c'est ce qu'ils appellent une sorte de rééquilibrage qui consiste à réintroduire les populations arabes dont ils disent qu'elles avaient été chassées par les Kurdes. Mmh. Et ce modèle, ça leur permet ensuite de négocier avec les États-Unis sur d'autres sujets en Syrie difficiles, et notamment ce fameux sujet de la ville de Manbij, qui était co-administrée par les Américains et les Kurdes, et sur laquelle aujourd'hui les Américains ont lâché les Kurdes. Donc ce qui se dessine, c'est une forme d'occupation d'un certain nombre de territoires au nord de la Syrie par la Turquie, dans une configuration provisoire qui est finalement celle d'attendre la fin des opérations militaires en Syrie pour voir quelle solution politique on aura.
Il faut rappeler, Dorothée, pardon, je vous interromps, qu'il y a en Turquie des centaines de milliers de réfugiés syriens.
Oui, plus de 3
millions. Et donc, la rumeur a couru que le projet d'Erdogan était aussi de réinstaller ces réfugiés syriens.
Alors, c'est pas seulement une rumeur, parce que ça a été dit à plusieurs reprises. Maintenant, est-ce que c'est possible? C'est pas du tout si évident, à la fois parce que d'abord on a des réfugiés syriens qui sont en Turquie depuis 5 ou 6 ans et qui n'ont pas forcément envie de rentrer en Syrie dans n'importe quelle condition. On sait qu'on en a une partie qui sont partis en Europe, et aujourd'hui on a à nouveau une recrudescence de départ vers la Grèce à partir de la Turquie.
Alors que l'Union européenne, sous l'impulsion de Madame Merkel, avait conclu avec Monsieur Erdogan un pacte, et on a donné, je crois d'ailleurs, 3 milliards d'euros à la Turquie pour que le régime d'Ankara stabilise en quelque sorte l'exode des Syriens sur son territoire, oui, et les empêche d'aller vers
l'Europe. Ça avait assez bien fonctionné. Maintenant, vous voyez bien qu'avec les résultats des dernières élections en Europe, on n'a plus aucun consensus sur ces questions d'immigration et même sur la question de l'asile. Donc on s'apprête probablement à avoir des discussions très dures entre Européens. Et si la Turquie rentre à nouveau dans le jeu, on sera en position de faiblesse complètement, évidemment.
Une réunion donc demain dimanche à Bruxelles sous l'autorité de Jean-Claude Juncker avec les dirigeants de français, allemands, italiens. Je crois que finalement les Italiens ont décidé d'y participer. Revenons à la diplomatie de Tayyip Erdogan. On a vu aussi à quel point il a le souci maintenant de s'ériger en grand patron de l'islam sunnite, ce qui n'est pas très simple parce qu'il n'est pas arabe. Donc traditionnellement, dans le monde arabe, le souvenir de l'Empire ottoman est parfois mitigé. Néanmoins, il s'est précipité au secours du Qatar, quand le Qatar a été isolé par l'Arabie saoudite et les Émirats. Et puis, il a repris le drapeau palestinien, en disant « c'est moi le défenseur de la cause palestinienne ».
D'abord, ce que vous décrivez, c'est en fait un regain d'activité de la diplomatie turque et un retour de relatif succès de la diplomatie turque. Alors que ça fait des années qu'on dit que la diplomatie turque est en perte de vitesse, que la Turquie est brouillée avec l'ensemble de ses voisins. Aujourd'hui, on voit très bien qu'elle est active sur plusieurs fronts et que ça marche relativement bien à court terme. Alors évidemment, sur la question du leadership, d'abord musulman et ensuite sunnite, on a d'abord l'extraordinaire coup de main que leur ont donné les Israéliens après la décision de transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem et avec les tirs à Gaza. La Turquie a repris le flambeau de la cause palestinienne, elle a pris la défense de Jérusalem, elle a pris la tête, le leadership de la défense de Jérusalem, parce qu'en plus elle occupait provisoirement le siège de la présidence de l'Organisation de la coopération islamique. Et alors là, le paradoxe qu'on a vu, c'est qu'on a eu l'Iran et la Turquie qui sont venus au secours de Jérusalem, alors qu'en face, on avait des puissances sunnites traditionnelles qui sont plutôt en train de se rapprocher avec Israël et qui donc étaient assez muettes. Mais ce qui est important aussi sur cette configuration islamique régionale, c'est qu'en fait, on a pratiquement une ligne de clivage ou deux fronts aujourd'hui qui sont, on pourrait appeler les monarchies conservatrices et le sunnisme conservateur qui en même temps essaie de se présenter comme progressiste avec Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. Mais les Turcs qui eux sont plutôt dans une configuration frères musulmans proche du Qatar et qui s'opposent donc à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte, aux Émirats Arabes Unis. Et ces deux fronts dans la région sont en train de mettre un peu à mal toutes nos clichés sur l'affrontement sunnite-chiite, parce que finalement les Turcs sont beaucoup plus proches des Iraniens qu'ils ne sont des Saoudiens à l'heure actuelle.
Ece Güner Toprak, nous retournons à Istanbul vous rejoindre. Il semblerait que les Turcs sont devenus la population la plus anti-américaine dans le monde d'aujourd'hui, d'après un sondage de l'Institut Pew. Jusqu'où est-ce que cette détestation des États-Unis imprègne, selon vous, l'opinion publique en Turquie ?
Écoutez, je crois que à ce sujet, c'est un peu, ça a été dû à certains événements et les médias, disons, faisant pas mal de propagande anti-américaine, et bien sûr, ça a été aussi dû au fait que Gulen qui est aux États-Unis et qu'ils n'ont pas répatrié en Turquie, etc. Donc c'est aussi un peu lié à ça. Donc vous avez raison, il y a eu ce sentiment, mais je crois que c'est aussi très conjoncturel dû à tous ces événements, et ça, je ne crois pas qu'au long terme il y ait une idée de sortir de l'OTAN, etc. Au contraire, je pense que il y a des millions de Turcs qui se retournent beaucoup plus maintenant vers l'Ouest, qui ont compris, parce que pour retourner un peu à ce qui s'est passé dans les années 2000, ce qui a permis au PIB donc de tripler, etc., en fait, c'était aussi beaucoup dû à l'accession au début des négociations avec l'Union européenne. Il ne faut pas oublier, en 2005, les investissements étrangers en Turquie qui étaient en dessous de 1 milliard de dollars sont soudainement montés à 16-18 milliards par an. Maintenant, aujourd'hui, l'année dernière, retournés aux environs de 5 milliards dû à la perte de démocratie, etc. Mais il y a eu un vrai effort de la Turquie pour se tourner vers l'Europe. Et je crois que les gens, maintenant, comprennent un peu l'importance de ce processus et comprennent un peu ce qu'on a perdu en s'éloignant de l'Europe. Et par exemple, même aujourd'hui, le candidat, disons, probablement favori de l'opposition, Muharrem İnce, qui va probablement être donc au second tour en face d'Erdogan, a dit, si je suis élu, je recommence tout de suite un tour de l'Europe, je recommence tout de suite à essayer de renouveler, de redémarrer une Turquie plus européenne. Et je crois qu'il y a un vrai sentiment plus grand, pro-européen, malgré toute la propagande anti-européenne dans les médias ici. Mais je voudrais aussi parler d'un point qui, par exemple, justement, crée un sentiment parfois anti-américain ou anti-européen. Par exemple, le sujet du PKK.
Donc le PKK, qui est le parti kurde considérée.
Non, justement, le problème pour la grande majorité de la population turque, c'est pas un parti. Hein. Le HDP, je suis d'accord, c'est un parti politique.
Oui, donc ça, c'est dont le dirigeant est en prison, d'accord. Le PKK, c'est considéré comme un mouvement terroriste.
Voilà, pour nous, le PKK, c'est un mouvement terroriste. Il y a eu plus de 40 000 morts même à cause de la guerre, donc des attentats terroristes. Et écoutez, moi, je crois beaucoup à la démocratie et à une démocratie européenne. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut parler de tout ça au Parlement, entre les partis politiques, avec le HDP, mais... Il ne peut pas y avoir de tolérance au terrorisme. En France ou en Allemagne, si une personne meurt, c'est un grand drame. Nous, on a chaque jour, on a plusieurs soldats, policiers qui sont tués. Il faut trouver une solution, évidemment. Il faut trouver une solution démocratique. Il faut en discuter au Parlement. Et l'opposition le dit. Discutons-en à fond au Parlement. Mais on ne peut pas montrer de tolérance au terrorisme. Mais quand en Europe, il y a ce genre de langage, ça crée un sentiment anti...
Non,
je voulais juste un peu...
je comprends bien. Mais on se souvient aussi que Erdogan avait entamé des négociations avec Öcalan et que ces négociations ont été rompues. D'Ankara.
Oui,
simplement,
ça devrait être fait au Parlement, quoi, d'une façon transparente. Je crois qu'en Turquie, maintenant, il y a vraiment une volonté démocratique, qui pourrait faire avancer les choses, mais ça doit être fait au Parlement et sans tolérance au terrorisme. Il faut terrorisme s'arrête, voilà.
Merci beaucoup, Gunnar, de nous avoir apporté cette analyse depuis Istanbul. Eric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire, et précisément, comme le disait Ece, les dirigeants de l'opposition qui espèrent donc mettre Tayyip Erdogan en péril pour l'élection présidentielle et qui espèrent aussi, grâce à leur alliance, emporter un grand nombre de sièges au Parlement. Qui sont donc les dirigeants de ces partis?
Écoutez, il y a la tête d'affiche du principal parti d'opposition, Muharrem İnce, c'est ce que nous raconte la Libre Belgique, qui est un candidat qui s'est forgé au fil du temps un profil qui fait de lui la principale révélation de la campagne. Alors le magazine européen Politico écrit de son côté que l'ancien professeur de physique, candidat donc du Parti Républicain du Peuple, a gagné en popularité grâce à sa maîtrise de la rhétorique, finalement pas très différente de celle d'Erdogan. Avec sa coéquipière au sein de la coalition de l'opposition, Meral Akşener, il a donné le ton de la campagne. Quant à celle-ci, le magazine Time a consacré à cette dernière un long portrait et livre une anecdote qui résume assez bien la personnalité, mais aussi le caractère bien trempé de cette femme de 61 ans, qui est tout sauf nouvelle dans la vie politique turque. Ainsi, le Time rappelle que lorsque les militaires ont tenté de renverser le gouvernement en 1997, celle qui était, à l'époque, une toute jeune ministre de l'Intérieur s'est dressée contre eux. Un général menace alors la jeune politicienne de l'empaler sur une pique devant son ministère. Quelques années plus tard, elle déclara sobrement devant la justice que ce jour-là, elle avait fait ce qu'elle devait faire. Eh bien, peut-on lire dans le journal américain, de la même façon qu'elle a défié à l'époque les militaires, ses partisans espèrent qu'elle peut aujourd'hui incarner la résistance à l'effondrement de la démocratie en Turquie. Car même si les sondages ne la placent pas en tête de l'opposition, cette femme croit à ses chances. Elle y croit précisément depuis le référendum constitutionnel qui date du 16 avril 2017 et qui va être remporté, on l'a rappelé tout à l'heure, de façon finalement ric-rac par Erdogan. Meral Akşener s'était engagée pendant cette campagne en appelant à voter non. Et c'est comme ça qu'elle a gagné ses galons d'opposantes, nous raconte le magazine Time.
Et donc, elle dirige le parti nationaliste.
Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, son positionnement politique est plutôt de centre-droit, mais c'est vrai, ses racines sont très à droite, voire ultra-nationalistes. Et c'est son positionnement politique qui pose un problème aujourd'hui à Erdogan, rapporte le magazine Time, car elle chasse sur ses terres en séduisant ses mêmes électeurs. Celle qui a parfois été comparée à Marine Le Pen à cause de ses discours ultra-nationalistes et qui est surnommée la Louve est une indéfectible conservatrice. À l'étranger, elle rassure en défendant l'ancrage de la Turquie dans l'OTAN, l'Occident et en se définissant comme une européenne, mais elle reste une faucon à l'égard des séparatistes kurdes. Et quand on l'interroge sur la question des réfugiés, et elle reconnaît qu'elle autoriserait les 3 millions de Syriens à rester dans son pays, mais elle ne cache pas qu'à ses yeux, cette présence est une grande source d'inquiétude. Alors, Meral Akşener n'est peut-être pas la candidate idéale, comme l'écrit Time, mais avec son parti, hein, sa formation qui est créée il y a seulement 8 mois, et qui s'appelle donc le Bon Parti, elle représente une alternative à Erdogan, c'est en tout cas ce qu'elle affirme, en martelant son attachement à l'état de droit. Cette ancienne universitaire diplômée d'histoire se démarque du populisme émotionnel d'Erdogan en accordant sa confiance aux institutions. « Je ne crois pas dans la règle du bien et du mal, dit-elle, mais dans la règle du droit. » Lorsqu'elle fait campagne, il lui arrive encore de tendre la main, paume ouverte. On peut y voir le drapeau turc tatoué au henné, signe du ralliement de son parti. Alors c'est vrai, ses chances de victoire sont sans doute faibles face à Erdogan, qui demeure, nous dit cette fois-ci le Washington Post, un formidable battleur de foire de campagne. Mais précisément, la seule femme candidate de cette élection ne veut rien lâcher. Elle a continué jusqu'au bout à monter sur les estrades politiques, même si, expliquait-elle au journal Time, Erdogan préfère que les femmes restent à la maison.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Denise Ussel, je rappelle que vous êtes économiste, rédactrice en chef du Panorama du CEPI. La situation économique et donc géopolitique de la Turquie est très particulière, puisque c'est un pays qui vit dans une dépendance énergétique aiguë et qui est accentuée en quelque sorte par sa position géographique.
Absolument. La Turquie, et quand on considère la Turquie parmi les grands émergents, à savoir la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et le Mexique, tous ces pays, et la Russie, qui font plus de 1% du PIB mondial, donc par les autres grands émergents dans cette catégorie, c'est le pays le plus dépendant énergétiquement. Et aussi quand on compare aux autres pays européens, aux pays développés, elle est encore plus dépendante que les pays avancés.
Donc ça veut dire que son pétrole et son gaz vient d'Iran, prioritairement, enfin le pétrole vient d'Iran et le gaz de Russie.
En fait, des deux, les Turcs importent aussi bien le gaz que le pétrole. Et ceci, dans le cadre de contrats de très long terme. Hein, quand on fait des oléoducs, des gazoducs, c'est pour 40 ans qu'on met. Mmh. Et dernièrement, au-delà de ce vaste réseau d'oléoducs et gazoducs, les Russes ont commencé à construire, donc depuis cette année, on a inauguré un central nucléaire en Méditerranée, en Turquie.
En présence de Vladimir Poutine. Donc,
absolument.
Cela veut bien dire que ce rapprochement entre deux hommes qui favorisent et qui incarnent d'ailleurs le pouvoir fort, le pouvoir viril, s'accompagne, enfin répond à des impératifs économiques autant que géostratégiques.
Absolument. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas très d'accord par rapport à notre jeune avocate qui était à Istanbul par rapport aux Américains, la question des États-Unis en Turquie. Vous avez demandé, vous avez dit, les Turcs seraient le peuple qui déteste le plus au monde en ce moment les Américains. Ça, je
c'est
savais
un
pas.
Sondage de l'Institut Pew.
Voilà.
Qui est
mais en tout cas, les Turcs ont des raisons de craindre les États-Unis actuellement.
Mais cela fait aussi partie, bien évidemment, des arguments que le régime active.
Cela fait partie des arguments, mais de notre côté, les États-Unis n'ont pas un jeu très clair par rapport aux partenaires, à l'ensemble de leurs partenaires. Hein, c'est pas que les Turcs.
Bien sûr.
Et que dire que la Turquie est très ancrée à l'OTAN en ce moment, eh ben, c'est très, très discutable. Il y a des graves problèmes au sein de tous les pays de l'OTAN. Les pays européens et les Américains ne sont pas d'accord sur ce sujet. Et la Turquie est dans une autre position et il est très, très lié à ces accords régionaux.
Précisément, Dorothée Schmidt, vous êtes à Beyrouth. Les accords régionaux de la Turquie, ce rapprochement spectaculaire avec la Russie, y compris sur le terrain syrien, jusqu'à quel point est-ce que cela signifie, selon vous, une sorte de bascule de la Turquie du côté russe?
Oui, alors c'est très important parce que c'est quelque chose qui met l'OTAN sous pression énormément. Donc là, puisqu'on parlait des relations avec les États-Unis, elles sont, bon, d'abord, elles sont désastreuses depuis la tentative de coup d'État de 2016, puisque vous savez que Fethullah Gulen, qui est considéré comme le responsable de la tentative de coup d'État par les Turcs, est aux États-Unis et que les États-Unis refusent de l'extrader, même si Mike Pompeo a dit qu'il examinerait la demande. On a besoin des Turcs régionalement, notamment parce que toutes les opérations anti-Daesh en Syrie et en Irak utilisaient largement la base turque d'Incirlik, qui est située près d'Adana en Turquie. On a au sein de l'OTAN aujourd'hui des Turcs qui nous disent qu'il faut apprendre à travailler avec les Russes. Alors c'est pas tellement dans l'ADN de l'OTAN de travailler avec la Russie. Des Turcs qui nous disent aussi que si les Américains ne se tiennent pas tranquilles sur les Kurdes, ça va très mal se passer. Et là, les Américains sont arrivés à un accord avec les Turcs sur la question de la présence kurde à Manbij, des Turcs que moi j'ai entendus dans une réunion de l'OTAN dire qu'on devrait se féliciter du fait qu'ils représentent l'OTAN aux négociations de paix que les Russes organisent sur la Syrie, ce qui est quand même tout à fait délirant en réalité du point de vue de l'OTAN, parce que personne ne leur a donné mandat pour ça. Alors le problème que nous avons, nous, c'est qu'effectivement le format russe fonctionne mieux, qu'aujourd'hui finalement c'est plutôt les Russes qui ont fait la loi en Syrie, et que donc d'une certaine façon les Turcs sont du bon côté. Mais il faut pas s'imaginer que cette relation diplomatique elle est complètement sans nuage. Je crois que le premier objectif des Russes en Syrie, c'était tout simplement de neutraliser les Turcs, de les empêcher de nuire finalement, de les amener de leur côté pour empêcher leur soutien à tous les mouvements djihadistes qui étaient en lutte contre Bachar al-Assad, et ils leur ont, dans leur fameux système de zone de désescalade en Syrie, ils leur ont demandé de discipliner les djihadistes à Idlib, donc près d'Alep, et ça c'est pratiquement impossible, c'est pratiquement mission impossible, ça va être très très compliqué pour les Turcs.
Oui, parce qu'il faut rappeler que la Turquie a eu un rôle très très ambigu, enfin d'abord a complètement changé de pied par rapport au régime Assad dont il s'était rapproché à une époque avec des investissements économiques turcs très importants en Syrie, me semble-t-il. Oui. Et ensuite, le soutien au mouvement rebelle anti-Bachar, avec une frontière parfaitement poreuse, où les gens de Daesh pouvaient entrer et sortir à peu près comme ils voulaient.
Alors maintenant, on a un mur à la frontière turco-syrienne. Ça correspond aussi aux inquiétudes turques vis-à-vis des mouvements kurdes, hein, et à cette fameuse porosité entre le PKK et le mouvement, le PYD, qui est le cousin du PKK en Syrie. Mais si Tayyip Erdogan a changé plus ou moins d'opinion vis-à-vis de Bachar al-Assad, en revanche, Bachar al-Assad n'a pas changé d'opinion vis-à-vis d'Erdogan et passe son temps à dénoncer l'occupation turque d'une partie du territoire syrien. Et par ailleurs, en Syrie aujourd'hui, on a un rapprochement qui se dessine entre les Kurdes et Bachar al-Assad, et précisément parce que les Turcs sont intervenus en Syrie. Donc ça, c'est un point de fragilité, à mon avis, qui est assez intéressant. Sur la Russie, effectivement, on a une très grande dépendance au gaz russe qui met finalement les Turcs en position de faiblesse vis-à-vis de la Russie. Je tiens juste à corriger le fait que c'est pas la centrale nucléaire qu'on a inaugurée, mais le chantier de la centrale nucléaire, parce que c'est quand même le serpent de mer de la politique énergétique de la Turquie, ça aussi. Mais en revanche,
ça prendra quelques années si ça se matérialise.
On a les pipes qui avancent. Et donc on a effectivement une sorte de vision géostratégique des Russes, mais aussi des Chinois, qui consiste à dessiner un espace centra-asiatique dans lequel la Turquie serait intégrée. Alors est-ce que ça c'est dans l'intérêt des Turcs? Oui, bien sûr, mais les Turcs ne peuvent absolument pas se permettre de se brouiller ni avec l'OTAN, ni avec l'Union européenne. Et d'ailleurs, Erdogan dit qu'il relancera les négociations d'adhésion à la Turquie, de la Turquie à l'Union européenne, lorsqu'il sera élu.
Mais il y a une crise ouverte quand même avec un certain nombre de pays européens.
Oui, c'est ça qui est la contradiction permanente, c'est qu'il a aussi dit qu'il boycotterait la prochaine présidence de l'Union européenne parce qu'elle sera autrichienne et que l'Autriche a un très mauvais rapport bilatéral avec la Turquie aujourd'hui, qu'elle a fait fermer cette mosquée, expulser 40 imams il y a une dizaine de jours. Donc en fait, on a un rapport qui est très mauvais en bilatéral avec un certain nombre de pays de l'UE, notamment en période électorale parce que Erdogan compte sur sa diaspora. Je vous rappelle qu'on a 6 millions de Turcs dans l'Europe qui sont des électeurs potentiels d'Erdogan. Et là, on a eu beaucoup de tensions avec certains pays. Mais finalement,
et
à terme...
Et on se souvient, oui, en France, quand le magazine Le Point...
Oui, tout à fait, même en France, on a traité
Erdogan de dictateur en couverture, quelques kiosquiers ont été menacés.
On a une vraie mobilisation des militants de l'AKP, qu'on a vu, je crois, pour la première fois en France, assez clairement, là, dans cette campagne électorale. On sait que c'est des moments de tension extrême, on espère que ça se calmera ensuite. Ce qui est certain, c'est que les Turcs ne peuvent pas se détacher de l'Union européenne pour des raisons économiques, mais aussi politiques, finalement.
Ahmet İnsel, la Turquie, ou plutôt les Turquies, on a toujours l'impression quand on on essaye de comprendre la complexité de ce pays. Et il y a au moins trois Turquies, en quelque sorte, avec une identité ethnique, religieuse, culturelle différente.
Tout à fait. La Turquie est d'abord sur les restes de l'Empire ottoman. La Turquie était évidemment, comme tout empire, était un mosaïque. Et ce mosaïque est devenu de plus en plus, avec la Première Guerre mondiale, avec les pogroms, les déportations, les génocides, il y a eu une politique de épuration ethnique, épuration ethno-religieuse. Mais aujourd'hui, dans Turquie, nous ne pouvons pas dire qu'il y a encore une identité citoyenne vraiment établie entre tous les ressortissants de la Turquie. Il y a trois identités qui s'affrontent. D'abord sur la question ethnique, nous avons parlé tout à l'heure des Kurdes qui représentent la minorité ethnique la plus importante, pas l'unique, mais la plus importante en Turquie. Ils représentent environ 20% de la population. Sur une population de 80 millions d'habitants, c'est quelque chose de très important. Les Kurdes de la région sont en majorité en Turquie. Par rapport à l'Irak, la Syrie et l'Iran, les Kurdes de Turquie représentent une population beaucoup plus importante. Le centre de gravité démographique des Kurdes de la région est en Turquie. Avec les Kurdes, la population kurde, la population turque a un problème, c'est que la majorité des Turcs, je ne dis pas la totalité, mais une majorité des Turcs, ont du mal à accepter une identité citoyenne égale où les Kurdes peuvent être citoyens en tant que porteurs de leur identité kurde.
Avec en plus, évidemment, le problème des affrontements militaires et des attentats. On a entendu tout à l'heure l'émotion d'Etche Güner qui
nous expliquait. Effectivement, mais ça c'est un peu l'histoire de fait de poule, parce que si la Turquie reconnaissait les droits citoyens des Kurdes, probablement on ne serions pas arrivés à ce point-là, puisque il y a eu depuis le début de la République plusieurs révoltes kurdes, et la révolte armée menée par le PKK depuis 1984 est un peu la suite de ces révoltes, et qui durent le plus longtemps possible, malheureusement qui durent depuis le début des années 80. Et effectivement, ceci pourrit non seulement les relations citoyennes, mais aussi la démocratie, mais aussi une des justifications de l'état d'urgence, etc., etc.
C'est un engrenage.
C'est un engrenage pour que l'état de droit ne soit pas appliqué, et c'est un engrenage pour que les populistes autoritaires justifient les mesures d'état d'exception. Alors, deuxième clivage que nous avons en Turquie, c'est un clivage plutôt religieux, où on retrouve une majorité sunnite, plus ou moins pratiquant, 60% de la population est pratiquante, et 80% de la population est d'origine sunnite, et il y a une 15% de la population d'origine musulmane, mais qui a une identité non sunnite, qui est alévite, une sorte de chiisme anatolien, qui n'a pas non plus un chiisme iranien, c'est un chiisme anatolien. Une branche hétérodoxe de l'islam anatolien, et les alévites demandent la reconnaissance de leur identité religieuse, veulent que leur lieu de culte soit reconnu comme lieu de culte, et effectivement la majorité sunnite, à la tête duquel se trouve Tayyip Erdogan, considère ça comme une immense, inacceptable chiisme. Et là, il y a des affrontements qui déterminent aussi les positions politiques.
Et puis il y a aussi, le statut des femmes, qui est évidemment au cœur du problème.
Moderniste et conservateur.
Parce qu'il est frappant, quand on se promène en Turquie, de voir à quel point l'islamisation
de l'espace public.
De l'espace public, avec les femmes qui, il y a 10 ou 15 ans, en tout cas dans les grandes villes, étaient rarement voilées, et aujourd'hui c'est l'inverse. Elles sont majoritairement voilées.
Il y a une politique d'islamisation de l'espace public que Tayyip Erdogan a commencé à prononcer publiquement cette idée à partir de 2012-2013, en disant « Nous allons fermer la parenthèse civilisationnelle ouverte il y a un an et demi, un siècle et demi, c'est-à-dire depuis la modernisation entreprise par l'Empire ottoman. Mais même avant l'Empire ottoman. Et Atatürk, évidemment, ouais. En plus. Et là, il considère comme une nécessité, un porteur de refondation civilisationnelle, une Turquie qui serait pieuse, républicaine mais pieuse, avec une jeunesse de plus en plus pieuse, de plus en plus religieuse, etc.
Et les femmes à la maison, comme le disait
les femmes à la maison, des cours obligatoires, des cours optionnels, de plus en plus optionnel, mais qui devient optionnel obligatoire à défaut d'autres options dans l'enseignement secondaire de la vie de Mohammed, les lectures du Coran, etc. Donc une réislamisation de l'espace public, l'utilisation de la direction des affaires religieuses qui dispose une armée de 100 000 imams pour pouvoir encadrer socialement la société,
et qui sont à l'œuvre en Afrique. On voit qu'il y a une influence turque en Afrique.
Dans les pays musulmans particulièrement, ouais. Il y a une influence à la fois culturelle, économique et politique, dont la communauté Gulen aussi était porteuse, avant qu'il soit fâché. Alors, c'est troisième facteur, c'est-à-dire conservateur, moderniste, on appelle aussi musulman laïque, mais plutôt le terme conservateur moderniste, je crois, est juste. Et la société turque est divisée autour de 50-60% conservateurs, 40-50% modernistes. Alors, la première fois, aujourd'hui, depuis un mois, avec ce que nous avons discuté tout à l'heure, c'est-à-dire la formation d'une opposition de coalition hétéroclite face à Erdogan, enfin, pour la première fois, l'espace politique n'est pas déterminé par ces clivages. Parce que face à Erdogan, jusque-là, il y avait ces clivages, c'est-à-dire nous les musulmans, nous les sunnites, nous les conservateurs, nous les turcs. En face de lui, il y a autant de musulmans, il y a autant de conservateurs, il y a autant de nationalistes, il y a autant de modernistes. Donc du coup, d'ailleurs, on voit bien lors du discours des meetings de Tayyip Erdogan, il n'a plus prise. Cet argument, ce ressource discursif, et ne marche plus.
Néanmoins, et ce sera le mot de conclusion jusqu'à ce qu'on apprenne, puisque les élections ont lieu demain, les résultats de ce double scrutin, présidentiel et législatif, il est quand même impensable qu'il soit battu. Donc le meilleur scénario pour l'opposition serait d'avoir un candidat au second tour contre Erdogan, c'est-à-dire le Muharrem İnce.
İnce probablement. Et qu'il ait perdu la majorité parlementaire. Et dans ce cas-là, nous pouvons avoir l'issue de second tour, si c'est le cas demain, l'issue de second tour devient totalement
ouverte. Et le second tour, il y a une date?
8 juillet.
Eh bien, nous serons attentifs. Merci. Merci à vous quatre. Merci donc à Ahmet İnsel, économiste politologue. Vous dirigez depuis Paris la maison d'édition turque İltesim. Vous écrivez encore pour des journaux, enfin pour ceux qui n'ont pas...
Le journal Cumhuriyet surtout.
Voilà. Et vous avez publié aux éditions La Découverte, La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Denise Ünal, merci à vous. Vous avez publié deux papiers très intéressants sur le blog du CPI, sur Ankara, Téhéran, Moscou, donc l'axe énergétique et géopolitique. Merci à Dorothée Schmidt, qui a publié l'an dernier un très bon petit ouvrage chez Talendier, La Turquie en 100 questions. Et vous avez aussi dirigé La Turquie au Moyen-Orient, retour d'une puissance régionale aux éditions CNRS IFRI. Et je remercie bien évidemment Ece Güner Toprak, cette jeune avocate, d'avoir été avec nous depuis Istanbul. Merci à Eric Scholl, à Luc-Jean Reynaud à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique, Meryl Moneghetti et Tatiana Lehat ont préparé cette émission. Et maintenant, comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end.